e-podcast.
Un podcast qui vous plonge dans nos enquêtes sur l'éthique en entreprise et sur le web.
Réalisé avec bienveillance par Lily
et Marine de l'agence Web Hippocamp.
Une agence en pleine transition éthique. Nous revoilà partie avec une nouvelle enquête. Après l'inclusion et l'accessibilité numérique, le numérique éco-responsable, on s'intéresse maintenant à l'entreprise de demain. Si on devait brosser le portrait de l'entreprise de demain, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? En interne, comme depuis l'extérieur. Pour y parvenir, on s'est penché sur les sujets de gouvernance, de management et de communication. Comment l'entreprise de demain s'organise? Comment les équipes sont-elles gérées? Comment se comportent les leaders et les managers? Comment est-ce qu'elles communiquent avec toutes ces parties prenantes? Bref, plein de questions intéressantes que l'on a posées à des experts et expertes de ces différents domaines. Dans cette série, on a rassemblé une grande diversité de profils passionnants et engagés. Une valeur ajoutée énorme pour aborder l'entreprise de demain sous différents angles. Et puis ça nous motive énormément de pouvoir partager nos découvertes et qui sait, vous inspirer à faire évoluer vos pratiques professionnelles. L'entreprise de demain est bien plus proche de nous qu'on ne le croit. En fait, elle existe déjà. Mais on ne vous en dit pas plus, vous le découvrirez dans cette enquête. Place donc au premier épisode. On commence par le commencement avec les fondements de l'entreprise et de la communication. À la base, pourquoi on a créé les entreprises? Pourquoi est-ce que l'on communique? Comment tout s'est emballé et comment aujourd'hui on en arrive à parler de communication responsable, de management bienveillant, d'organisation horizontale ou encore d'entreprise responsable? Bref, l'objectif de ce premier épisode, c'est de dresser un portrait de l'évolution des entreprises et de leur communication. On fait donc un retour en arrière avec un peu d'histoire expliquée par Cyril Maslow, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, Andrea Catelani, professeur en communication à l'Université de Louvain. Sans plus attendre, on se lance dans ce premier épisode, Histoire des entreprises et de leur communication. Pour la première partie de cet épisode, on se concentre sur la raison d'être des entreprises, au sens propre. Nous voulions déjà comprendre pourquoi elles ont été créées à la base, avant même de creuser leurs évolutions responsables et leurs spécificités. On a donc demandé à Cyril Maslow de revenir sur l'origine de l'entreprise et de retracer avec nous leur histoire.
Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est finalement qu'une entreprise qu'on dit classique? Pourquoi ça a été créé et qu'est-ce que c'est que le but originel d'une entreprise finalement?
Alors, même dans la question déjà, on se heurte à cette question du classique. Hein. Effectivement, on voit bien que quand on pose la question, on se demande un petit peu de ce que ça veut dire quoi concrètement. En fait, l'entreprise, on a beaucoup de représentations de ce que ça peut être hein, comme monde et pas toujours les mêmes selon qu'on est dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire. Donc, c'est un petit peu toujours compliqué d'en parler de manière un peu globale, et il faut toujours un peu préciser justement de quoi et d'où on parle au départ. Bon, d'un point de vue simplement historique, hein, puisque tu posais la question de pourquoi ça a été créé, c'était quoi son but originel, faut quand même revenir à un besoin tout bête qui est un besoin d'échanger. L'intérêt a toujours été de comment je peux échanger ce que moi je sais faire avec ce que mon voisin lui sait faire. Tout d'abord pour subvenir à mes besoins. Donc déjà les besoins primaires. Alors moi, vous allez voir que je vais parler assez souvent de la pyramide de Maslow parce qu'elle nous permet de nous guider justement et de revenir à des fondamentaux dans nos civilisations. Et donc quand on parle de cela, on parle de besoins justement et de dire avant tout, on avait quand même besoin de pouvoir échanger par rapport à comment je mange, qu'est-ce que je mange, où est-ce que je vis, donc comment je suis à l'abri de la pluie, à l'abri du froid, mais aussi à l'abri du chaud. Comment je fais pour ne pas avoir de problèmes de santé, comment je fais pour être soigné, comment je fais pour boire de l'eau et qu'il soit de bonne qualité, etc. etc. Donc, si on prend la pyramide de Maslow, l'idée étant de subvenir aux besoins les plus primaires et au fur et à mesure que l'on monte dans la pyramide, on arrive à des besoins qui sont plus liés à l'épanouissement personnel, pour le dire un peu rapidement comme ça. Donc, si on est sur cette idée de pourquoi ça a été créé et son but originel, ça répond en fait à une question d'organisation entre les humains, de nos activités et donc de nos échanges. N'oubliez pas que l'économie, avant tout, c'est la question de comment on organise la vie du foyer, comment on organise effectivement la régulation entre les ressources, les besoins et leur consommation au sein d'un foyer. Donc on est quand même sur cette question-là de comment on exploite ces ressources. Alors après, il y a eu tout ce qu'on peut connaître dans l'histoire sur les grandes entreprises qui ont été liées à la découverte par le monde occidental, notamment d'autres territoires et d'autres ressources. Et là, je vous en renvoie, on va dire, à l'histoire de l'esclavagisme, l'histoire de décolonisation, des grandes colonisations, etc. Et ensuite, la révolution industrielle qui a boosté le système capitaliste qu'on connaît actuellement, et dont on connaît en fait une forme d'apogée dans cette version ultra-libérale dans laquelle nous sommes plongés actuellement, et qui fait qu'on se repose justement des questions un petit peu plus, on va dire, plus fondamentales sur ces questions de gouvernance. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que dans ces prémices, on va dire, de comment on organise nos échanges, au départ, on a organisé ça de manière plutôt... on va dire logique. Alors, je précise que je ne suis pas économiste, donc je le dis à ma manière, à moi, avec ce que j'en connais et la manière dont on voit les choses aussi en Infocom. Mais l'idée était qu'on essayait d'organiser nos échanges entre humains d'une manière la plus logique possible. Je dis ça, par exemple, en prenant... parce que j'ai en tête l'expérience qu'on peut vivre dans nos territoires en Franche-Comté, dans le Jura en particulier, sur les fromages. La filière du Comté a montré que pour faire ce fromage-là, il faut qu'on se mette ensemble pour le faire. Donc ça, c'est une histoire d'économie aussi, de coopération, en fait, où il a fallu que techniquement, on se dise, pour réussir à faire ce que j'ai à faire, il faut que je le fasse avec mes voisins, il faut que je me mette d'accord avec eux, il faut qu'on mette en commun nos produits, nos ressources aussi, et que l'on construise, on va dire, une structure de coopération qui nous permette de produire notre fromage et bien entendu ensuite de le diffuser, de le mettre en circulation pour que les gens puissent le consommer et que nous, on puisse vivre de notre travail et donc de notre coopération. C'est comme ça que sont nées les premières coopératives, ce qu'on appelle les fruitières, donc en l'occurrence ici liées à la production laitière, mais aussi on a eu le même système avec les fruitières qui sont liées au monde vinicole, puisqu'on estime que ces premières coopératives sont nées dans cette zone-là, avec des premières prémices au Moyen-Âge et avec une explosion, on va dire, un peu plus tardive. Bon, alors ça, c'est un exemple, mais on se rend compte aussi que dans beaucoup d'entreprises, on a pu éventuellement perdre de vue dans nos années actuelles cette idée de répondre à un besoin, en tout cas à un besoin avéré de l'être humain dans son quotidien. Ça, c'est très bien expliqué, en particulier par Noam Chomsky, dans La fabrique du consentement, et je vous renvoie aussi au film de Daniel Mermet qui s'appelle Chomsky et compagnie, et dans lequel il retrace un petit peu ce que je viens de vous dire sur comment on a lancé au départ l'activité économique et ce que c'est devenu dans nos mondes actuels.
C'est assez curieux de constater que l'essence de l'entreprise, un petit peu le but originel, c'était un souci de coopération, même un besoin de coopération. Et ça marque un point de rupture. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de démission, de silent quitting, de difficultés de recrutement, de rupture en termes de rémunération. Finalement, est-ce que c'est nouveau ? Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Et pourquoi on y assiste de plus en plus ?
Alors oui, c'est assez nouveau ce phénomène, effectivement. C'est assez récent, en tout cas, à ma connaissance. Alors je dis toujours attention, quand on aborde ce genre de sujet, attention aux visions qui sont un peu centrées sur ce qu'on connaît nous. C'est pour ça tout à l'heure que je rappelais que ça, l'économie en général, mais nos manières de vivre ensemble ne réagissent pas de la même manière quand on est dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire, parce qu'effectivement, on parle de plus en plus de démissions et de silent quitting en ce moment. Mais est-ce qu'on entend ça, par exemple, chez les ouvriers à la Peuge, comme on dit chez nous, c'est-à-dire à Peugeot, ou dans une entreprise de découpage industriel, ou dans ce genre de monde ouvrier ? Pas vraiment à l'heure actuelle. Si j'ai bien tout suivi, c'est un phénomène qu'on repère souvent plutôt dans le monde des employés, pas dans le monde des ouvriers, plutôt sur des employés qui ont... qui sont un peu dans des emplois supérieurs, on va dire, alors des cadres aussi, hein, ou des gens qui sont à des postes plutôt intéressants, on va dire, vu de loin. Mais il y a, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une difficulté exprimée aussi dans des autres secteurs, effectivement, au recrutement. Par exemple, dans le bâtiment, la restauration, l'hôtellerie, ou une foule de métiers dits pénibles. Mais en même temps, le contexte nous ramène aussi à ces questions-là. Qu'est-ce qu'on vend à l'heure actuelle alors aux jeunes, excusez-moi de le dire comme ça, mais au sens large, hein, c'est-à-dire que quand on travaille en statistique sur la population, depuis les années 80-85, on considère qu'un jeune, c'est quelqu'un qui est jusqu'à 34-35 ans. Hein, voilà. Après, on commence un petit peu à vieillir. Qu'est-ce qu'on vend aux jeunes à l'heure actuelle ? On en revend un salaire de misère dans pas mal de métiers, une retraite, puisqu'on est en plein dans l'actualité, qu'on propose à 64 ans, mais on sait déjà qu'on nous annonce du 67 dans les 10 ans ou 15 ans à venir, dans des conditions sanitaires qui sont déplorables, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer ? On va arriver en retraite, mais malade, donc comment on va profiter de notre vie ? Vous avez vu passer, j'imagine, tous les chiffres à l'heure actuelle sur cette question-là, où on explique que 25% des pauvres, les gens qui sont pauvres, qui vivent sous le seuil de pauvreté, meurent avant 60 ans, 25%. Et à côté de ça, on sait que, bah, effectivement, il y a un écart d'espérance de vie de 13 ans entre les plus riches et les plus pauvres.
C'est énorme.
Donc, à l'heure actuelle, moi, je ne suis pas très étonné, finalement, de voir, et je le constate chez mes étudiants, je le constate chez mes enfants, je suis un daron, moi aussi, hein, qu'il y a une perte de sens, tout à fait, dans notre société. Alors, la perte de sens n'est pas si nouvelle, par contre. Moi, je l'ai déjà, ça fait une vingtaine d'années que je la vois, en tout cas, dans notre quotidien, y compris dans l'essor du secteur de l'économie sociale et solidaire, qui profite en fait de ce questionnement sur quel est le sens que je donne à ma vie et qui fait qu'à l'heure actuelle, une partie de la population considère que ça ne vaut pas la peine et que concrètement, le gagne-pain ne suffit plus. Ce n'est pas suffisant pour donner un sens à sa vie. Et je pense que ça a été exacerbé par les épisodes de confinement, de Covid qu'on a connus, mais aussi les autres crises que l'on affronte. La guerre en Ukraine, bien entendu, elle est plus proche que celle qui se font sur le continent africain, donc les gens en prennent plus conscience facilement. Malgré ça, on sait que notre monde est en crise, on sait qu'il y a des guerres encore en Syrie et ailleurs. On sait aussi que, effectivement, les changements climatiques dérèglent ce qui nous arrive au fur et à mesure, enfin notre quotidien aussi, qu'on va avoir des épisodes de fortes chaleurs de plus en plus réguliers, des épisodes de tornades, en tout cas de fortes pluies, des événements climatiques outranciers, forts, plus régulièrement, et qui, sur lesquels il va falloir qu'on agisse, en tout cas il va falloir qu'on fasse attention à ça et qu'on s'adapte, hein, à tout ce qui peut exister. Alors je ne vous parle pas des zoonoses, hein, toutes ces maladies qui arrivent en tout cas du monde animal, ben, comme la Covid, mais comme d'autres, hein. Le monkeypox, pour ne citer que celui-là. Et tout ça crée une forme d'éco-anxiété, ce qu'on appelle aussi de la solastologie, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, mais qui revient à cette idée-là. Donc, le monde à l'heure actuelle, très franchement, moi, je n'aimerais pas avoir 12-13 ans aujourd'hui.
Est-ce que tu penses que tout ça a participé à remettre en question le modèle de l'entreprise, cette perte de sens, les crises successives ?
Ah oui, pour moi, c'est assez clair. Je disais tout à l'heure que le monde de l'économie sociale et solidaire avait profité de ce que j'ai vécu, moi, sur le terrain, a profité de ce sentiment depuis une quinzaine d'années, parce que l'on voit justement de plus en plus de candidatures, alors je répète, de jeunes, c'est-à-dire des gens qui ont, allez, on va dire, entre 25 et 35 ans, voire même 40, qui viennent d'un monde, on va dire, classique, vous savez ce qu'on appelle le monde d'avant, c'est-à-dire des gens qui ont été formés dans les grandes écoles ou dans les universités de manière très classique, à qui on a appris à être des bons employés et à continuer à pérenniser ce monde d'avant. et puis qui tout d'un coup se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi ? Concrètement, qu'est-ce qu'on est en train de m'offrir ? Et qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et moi, je suis en train de participer à cette destruction du quotidien qui me fait mal, que je regrette, que je voudrais combattre, alors que moi, bah, pour l'instant, je suis banquier là, je travaille au RH chez Total, je travaille dans des entreprises qui, eh ben stop, j'arrête et je vais candidater dans des entreprises de l'ESS qui voient les choses autrement, où je monte ma propre activité, mais d'une manière coopérative, etc. En tout cas, j'essaye de changer. Alors, tout le monde ne fait pas ça, mais j'ai ressenti, je vous le dis, depuis une quinzaine d'années à peu près, un mouvement plus fort dans ce monde-là, de gens en tout cas qui font ces démarches-là, de création, de structures, mais qui vivent des choses autrement et qui veulent organiser justement l'entrepreneuriat différemment, entre eux. Donc je pense que ça a participé énormément. Ouais.
Finalement, si on devait un petit peu résumer le défi qu'on a en tête, du moins du point de vue des entreprises, ce serait comment attirer de nouveaux talents tout en pérennisant financièrement leur activité, mais le faire bien, quoi, rester éthique et s'inspirer peut-être des modèles type ESS et autres.
Bah, c'est un débat qui est très compliqué, hein, en fait, hein, parce que encore une fois, quand on parle d'entreprise, de quelle entreprise on parle ? Ce que tu dis est vrai pour certaines entreprises où on peut aller dans ce sens-là, en particulier dans le tertiaire. Si je ne parle que de nous, par exemple, en communication, on peut très bien choisir, par exemple, de se... on peut très bien choisir. C'est très difficile d'un point de vue économique, hein, en termes de modèle économique. Mais si l'on décide de ne travailler qu'avec des structures qui se disent éthiquement responsables ou socialement responsables, etc. Je ne fais que de la communication pour le monde de l'économie sociale et solidaire, par exemple. Bon, pourquoi pas ? En sachant que dans ce monde-là, il y a aussi à boire et à manger, parce qu'il y a des gens qui surfent sur la vague et qui se disent ESS, comme on le dit, mais qui finalement ne le sont absolument pas. C'est une parenthèse, mais qu'il faut quand même aborder dans cette nuance, quoi. Mais si on parle d'entreprise, encore une fois, dans le secteur ouvrier, secteur primaire, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix aussi. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas le choix, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de sous. Donc le phénomène dont je parlais tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde, encore une fois. Quand on est dans une optique de ce type-là, donc quand on est dans une civilisation, mais large, hein, parce que ça ne concerne pas que nous, hein, là je parle vraiment des sociétés riches, pour le dire ainsi, où on met dans la formation avant tout des éléments qui amènent la population à être un bon petit soldat, mais pas à être un bon citoyen avec un esprit critique et qui a envie de construire la vie ensemble, on fait un choix politique dès le départ pour que les gens ne réfléchissent pas par eux-mêmes et ensuite n'aient plus qu'un seul choix, aller au boulot. Voilà. Et effectivement, il y a toute une partie de la population qui est dans cet esprit-là. Alors là, que leur entreprise soit éthique, soit responsable, ou socialement responsable, ou ait envie de changer les choses, eux, ils s'en fichent. Ce qu'ils ont besoin, c'est de manger. Rappelez-vous ce que disait notre regretté Coluche. Il disait quand même, c'est pas vrai qu'il y a 3 millions de chômeurs qui demandent du travail. Non, c'est pas vrai. Ces 3 millions de chômeurs, ils ont besoin d'argent. En fait, ils ont besoin, encore une fois, de subvenir à leurs besoins de la pyramide de Maslow. Et ils n'ont pas besoin de travail en tant que tel. Ils ont besoin d'une activité. On a besoin d'une activité pour être inséré socialement. Ça, c'est évident. Et que cette activité-là nous permette de nous épanouir individuellement, je le dis bien comme ça, et socialement. Voilà. Et que cette activité nous permette de vivre concrètement. Mais on n'a pas besoin d'un travail au sens de « je suis obligé de louer ma force de travail à justement une entreprise ». Et alors, là encore une fois, si on était dans un monde un peu plus idéal, la question de l'entrepreneuriat est important pour moi, parce qu'entreprendre, c'est important dans l'idée justement de subvenir à nos besoins et d'améliorer nos conditions de vie au quotidien. Et cet entrepreneuriat-là, il ne marche, à mon sens, pour l'avoir vécu sur le terrain, que s'il est collectif. Et quand il n'est pas collectif, ben on arrive au monde dans lequel on est maintenant. le monde d'avant.
Actuellement, par rapport à l'entrepreneuriat, tu veux dire qu'il faut que ce soit une démarche collective dans le sens où c'est une entreprise qui emploie plusieurs personnes ou c'est une entreprise qui se met vraiment dans la démarche de créer un réseau autour d'elle, d'avoir des partenaires, etc.
Dans les deux niveaux, en fait, c'est-à-dire que quand je parle d'entreprise collective, ou d'entrepreneuriat collectif, je serais plutôt dans cette idée-là, c'est plutôt de l'idée de dire ensemble, on va répondre justement à un besoin et on va avoir le même objectif. Le problème à l'heure actuelle, il est souvent celui-là, hein, c'est que on ne partage plus les objectifs de à quoi servent les entreprises. Alors encore une fois, là, j'essaie d'être large, que ça prenne aussi bien le primaire, le secondaire que le tertiaire. Mais quand je suis dans le bâtiment, par exemple, c'est pas rien quand même. Construire des maisons, construire des écoles, construire des édifices publics, c'est pas rien. Ça sert à quelque chose dans notre société, ça sert aux humains, ça sert à les mettre à l'abri, ça sert à accueillir des activités. Et on peut le faire de la manière la plus écologique possible, la plus sociale possible, et faire en sorte que ça se passe bien. Qu'est-ce qui empêche que tous les ouvriers qui sont dans cette entreprise-là aient le même but et participent, en fait, par l'appropriation de ce but-là, participent à ce que l'entreprise marche bien, que chacun soit entrepreneur dans sa manière d'aborder son activité au quotidien. Par mon métier, je participe à. Donc, ça veut dire que ce serait logique que je participe aux décisions. Il serait logique que je participe aussi aux gains, que je sois payé à la hauteur de ce que je donne dans ce schéma entrepreneurial collectif et qu'effectivement, il n'y ait pas des disparités extraordinaires. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est la base des chartes des coopératives. La base des chartes des coopératives, c'est une gouvernance partagée, tournante. C'est une tête, une voix, une échelle des salaires. Pourquoi est-ce que le dirigeant de Total est payé 3500 fois plus cher que son meilleur ingénieur? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une échelle qui soit plus resserrée? Et pourquoi est-ce qu'on aurait des gens qui toucheraient 7000, 8000, 10000 alors que d'autres sont au SMIG? Je ne vois pas la logique, concrètement. Alors, si on me dit que la logique, c'est pour motiver les gens, ben, motivons-les par l'entrepreneuriat, par la raison sociale, par l'utilité sociale de la structure. Et puis, il y a bien sûr le côté non lucratif.
Quand tu parlais du sens et des entreprises, ça faisait très écho avec la raison d'être, littéralement la raison d'exister des entreprises. Peut-être que les entreprises devraient passer un petit peu plus de temps sur leur raison d'être et pas les considérer uniquement comme des outils de communication, mais plus comme l'essence même de leur activité.
Ouais, exactement. Moi, je suis assez d'accord avec ça. À l'heure actuelle, dans la loi de 2014 qui a été portée par Benoît Hamon sur l'économie sociale et solidaire, ils ont réussi à mettre en place un premier processus qui n'est pas encore complètement satisfaisant, mais qui pourrait être amélioré, qui dit que si on veut être reconnu comme étant une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on doit avoir un label qui s'appelle l'ESUS, c'est-à-dire qui est une reconnaissance, en fait, comme tout label, hein, mais qui est une reconnaissance de l'utilité sociale de la structure. Moi, je suis assez porté là-dessus, c'est-à-dire que quand on n'arrive pas à démontrer justement en quoi on est socialement utile à l'autre, quoi, à notre voisin, aux êtres humains, aux écosystèmes, pour le dire de manière plus large, et que cette utilité-là, elle est effectivement partagée, reconnue, etc., si on n'y arrive pas, c'est compliqué quand même. C'est quand même très, très compliqué. Il y a même une grille, en fait, si vous voulez, d'auto-évaluation ou d'évaluation, hein, avec plusieurs critères d'évaluation. Vous allez me rétorquer, bah oui, mais Total est d'utilité sociale, puisqu'ils font du pétrole, ils font de l'essence, qui permet aux gens de se déplacer, d'avoir des loisirs et d'aller au travail. Alors attention, hein. Est-ce que cette utilité-là, elle est si utile que ça? Voilà, donc, on peut les remettre en question, on peut les interroger, et surtout, on doit interroger leurs conséquences sociales et environnementales. Donc, c'est pour ça que je parlais d'écosystème tout à l'heure. Donc, tout est une question d'évaluation et de reconnaissance, encore une fois, collective. Hein. Et ce qui m'embête, moi, considérablement, quand on aborde ces propos-là, c'est que nos concitoyens ont alors c'est pas qu'ils ont perdu, parce qu'ils n'ont jamais vraiment eu cette notion-là, mais n'ont pas cette volonté ancrée à participer justement à toutes ces décisions-là ou à tout ce qui fait qu'on peut vivre ensemble. Très honnêtement, on est tous très hypocrites. Moi, je suis très content qu'il y ait des gens qui s'occupent de récupérer mes poubelles une fois par semaine. Sauf que normalement, ce qui devrait se passer, c'est que moi, une semaine par an, par exemple, je devrais ne faire que le ramassage des poubelles. Une semaine par an, je devrais curer les égouts de ma ville, comme tous les autres. Peut-être qu'une semaine par an, je devrais m'occuper de la gestion de ma commune. Qu'une semaine par an, je m'occupe du périscolaire. Alors, je sais bien qu'on n'a pas toutes les compétences de partout, mais on peut faire plein de choses, et en particulier ces fameux métiers pénibles. On est très hypocrite, on ne veut pas les faire, on les laisse effectivement aux gens qui sont par contre les indispensables. Rappelez-vous ce qui s'est passé pendant le confinement. Métier pénible, justement, les gens qui ramassent les poubelles, le facteur, les caissiers, les gens qui s'occupent des personnes âgées dans les EHPAD, mais aussi à domicile, les infirmiers, etc., etc., je ne vais pas tous les citer. C'est eux les métiers fondamentaux. La France, elle a pu s'arrêter.
On a un sentiment par rapport à l'injustice qui est très fort avec Lily. Et en effet, ça le réveille complètement, parce que c'est vrai que tu te rends compte qu'on marche complètement sur la tête, c'est absurde. Moi, je pense que justement, les métiers qui sauvent les vies, les pompiers, les médecins, les infirmiers, les infirmières, ils devraient être payés déjà tellement plus. Enfin, on les valorise pas assez pour tout ce qu'ils font.
Mais bien sûr, alors c'est pas seulement payé, hein, c'est une question de conditions de travail. Plus de vacances, c'est. Parce que.
Disposition des moyens suffisants pour qu'ils exercent dans de bonnes conditions, quoi.
Exactement, tu as raison, c'est ça, c'est des conditions de travail, c'est du repos, c'est de la considération. Tout ce que je vous raconte, ça peut vous paraître loin par rapport à ce qu'on l'on fait en information et communication. Parce que ça peut paraître étonnant de la part d'un enseignant-chercheur en information et communication d'aborder tous ces sujets-là. Mais pour moi, c'est fondamental parce que ce sont ces sujets-là qui m'ont amené en fait à travailler surtout en recherche, mais aussi en cours. Aussi à donner des cours sur comment nous, en Infocom, on peut, pour le dire rapidement, on peut accompagner ces changements-là, on peut accompagner ces transitions, on peut aider, on va dire, à faire en sorte qu'on ne marche plus sur la tête et qu'on essaye de reprendre du poids sur la gouvernance de nos vies et donc, fondamentalement, redonner du sens à nos vies. L'idée qu'il y a derrière nos recherches, c'est de dire, j'utilise un slogan, hein, vous ne m'en voudrez pas, hein, c'est un raccourci de communicant, mais un slogan qui se lit dans les deux sens. On se rend compte, face à cette situation, qu'il faut changer. Pour changer, on est tous d'accord qu'il faut agir. Il ne suffit pas de dire « y a qu'à Faucon », il faut le faire. Et c'est là où l'Infocom prend toute sa place. Nous, en information et communication, on a des compétences qu'on développe qui sont, premièrement, créer de l'information, c'est-à-dire qu'on sait très bien observer le monde qui nous entoure. On a des outils pour ça, on a des philosophies pour ça, on a des méthodes, on a de l'ingénierie. On sait comment observer et transformer notre observation en information, en connaissance. On sait faire ça, et on sait faire ça de manière collective. On sait communiquer entre nous, donc le deuxième volet, pour que collectivement, on construise la meilleure connaissance possible. Et que cette connaissance, elle ne suffit pas toute seule. Là, qu'est-ce que je vais vous citer? Je vais vous citer Don't Look Up, ce fameux film que vous connaissez, j'imagine, où on se rend compte qu'une météorite va écraser la Terre et que tout le monde regarde ailleurs, y compris les gouvernants, en disant « Oh, c'est dans 6 mois, on a le temps, on est large. » Non, quoi, on n'est pas large. Et là, on est dans cette situation-là à l'heure actuelle. Naïvement, on pourrait croire que si on a la connaissance, tout va changer. Et je vous garantis que non. Même chez mes collègues, je travaillais avec des sociologues encore ces jours-ci, qui ont une cinquantaine d'années, et qui me disaient « mais je ne comprends pas comment nos politiques ne tiennent pas compte de toutes nos recherches et de tout ce qu'on démontre. Ben, c'est don't look up, hein, je suis désolé, la connaissance ne suffit pas. Il faut que nous, derrière, on mette beaucoup de processus de communication pour que ces connaissances-là soient diffusées, infusées dans nos sociétés, que nos élus les comprennent, en tiennent compte et en fassent quelque chose. Donc il faut aussi qu'on les accompagne sur comment on mène ces changements. Et donc là, on travaille beaucoup avec des psychologues et des sociologues, notamment, comment on mène ces changements-là et comment on agit pour que ces changements-là soient effectifs. Donc c'est là où nous, en Infocom, on a un rôle super important depuis l'observation, la transformation en information, en connaissance, en comment on agit et comment on accompagne ces changements-là, comment on les observe pour les améliorer et qu'ils soient, on va dire, le plus efficace et le plus efficient possible.
On ne sait pas pour vous, mais cet échange avec Cyril nous a ouvertes à de nouvelles perspectives, qui vont d'ailleurs bien plus loin qu'on ne l'imaginait. On est maintenant convaincu que l'entreprise de demain aura du sens ou ne sera pas. Elle jouera son rôle sociétal ou n'existera tout simplement pas. Ça donne beaucoup d'espoir et nous, ça nous motive encore plus à continuer de nous investir pour être plus responsables. On l'a vu ou plutôt entendu, il y a une vague de changements qui touche toutes les dimensions des entreprises et du monde professionnel. On s'est donc demandé quels impacts peuvent avoir tous ces changements sur la communication des entreprises. Pour cela, on a échangé avec Andrea Catellani sur l'histoire de la communication, son origine, les raisons de son épanouissement, ses dérives et jusqu'à l'émergence de pratiques de communication plus vertueuses.
Est-ce que tu peux revenir avec nous sur les débuts de la communication? Comment est née la communication qu'on connaît aujourd'hui et comment elle est arrivée au sein des entreprises?
Alors, communication a toujours existé dans toutes les sphères de la société. Donc, on peut penser à la sphère religieuse, pensons à la diffusion du christianisme, le fait économique. Évidemment, le commerce a toujours été lié à la communication. La sphère politique, avec la communication des États, la mise en scène des rois, par exemple, et des puissants. Donc, la communication est et a toujours été support, expression du pouvoir des institutions, mais aussi parfois critique des institutions existantes. Alors, plus récemment, évidemment, on peut voir des changements importants dans cette histoire très longue avec l'apparition des médias et avant avec la révolution industrielle, donc l'apparition de l'entreprise moderne, la communication suit, exprime les institutions qui se développent comme l'entreprise moderne, contemporaine, et parfois la critique aussi. Donc la communication est là aussi, par exemple, dans les associations, dans les mouvements sociaux et évidemment dans les gouvernements. Et donc là, je voulais donner un exemple de cette évolution. Au XIXe siècle, les grandes entreprises se constituent en Europe, aussi en Amérique du Nord. C'est l'époque où se développe le premier département de relations avec la presse, parce qu'il y a ce pouvoir important de la presse, et donc l'importance de développer des relations, de bonnes relations avec la presse, la press agency, comme on l'appelle aux États-Unis. Et de l'autre côté, il y a des journalistes qui... appelés à l'époque fouilleurs d'ordures. Voilà, c'est une expression un peu bizarre, mais pour dire qu'ils cherchaient à mettre en évidence les méfaits du système économique de l'époque, les conditions de vie des travailleurs, parfois très difficiles. Et donc, il y avait cette situation où la communication se développe, bon, d'un côté sous forme de journalisme d'investigation, de l'autre côté sous forme de relations avec la presse. Au début du XXe siècle, il y a eu le développement des premières agences, des consultances. À l'époque, on l'appelait la publicity aux États-Unis. Mais ce n'est pas seulement un phénomène américain. Donc, en Europe aussi, il y a le développement de ces départements, de ces personnes qui se dédient à la communication. Évidemment, en parallèle, il y a le développement de la communication au niveau des gouvernements et au niveau politique, des partis politiques à l'occasion des élections et pas seulement. Puis, au XXe siècle, voilà, il y a le développement de la société de consommation, notamment à partir des années 20, le développement de la publicité, et puis le développement plus précis, plus spécifique des techniques des relations publiques, les public relations, phénomène important de cette époque, la rencontre avec les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire que les gens qui s'occupent des communications se mettent à utiliser les résultats des sciences humaines et sociales, et on n'a pas arrêté de faire ça. Et voilà, en parallèle, il y a eu l'évolution de la communication politique. Donc, c'est une histoire très longue. On est arrivé après à l'Internet, on est arrivé à ce qu'on appelait à un certain moment l'Internet 2.0, en tout cas les réseaux sociaux numériques, les médias sociaux numériques, le développement dans le sens de la mobilité, de l'Internet, etc. Donc, la situation actuelle où la communication s'est développée, évidemment, s'est spécialisée. Il y a beaucoup de différentes spécialisations dans le domaine de la communication. Mais j'aime bien replacer cette histoire récente, la situation actuelle, disons, dans le temps long. Donc, c'est un chaînon d'une longue évolution. Ce que nous avons sous les yeux, le monde des professions de la communication d'aujourd'hui. Et dernier point, il ne faut pas oublier, comme je disais tout à l'heure, la contre-histoire, comme certains auteurs l'ont appelé, des relations publiques, c'est-à-dire l'histoire des mouvements sociaux. Par exemple, les mouvements pour la tempérance contre l'alcoolisme aux États-Unis au XIXe siècle, et puis les mouvements pour les droits civiques aux États-Unis toujours, dans les années 60, et puis le développement en Occident de l'environnementalisme, des grandes associations environnementalistes qui ont été des très grandes actrices, on peut dire, de la communication stratégique, des relations publiques, pensons seulement à Greenpeace et à bien d'autres, jusqu'à arriver aujourd'hui à l'époque de l'Internet et des réseaux sociaux numériques avec tout ce que nous connaissons, des sophistications dans ce domaine de communication, de sensibilisation, de collecte de fonds, de militantes, voilà, qui existent aussi. Donc, il ne faut pas l'oublier quand on parle de l'évolution de la communication, des relations publiques ou de la publicité.
Du coup, ma question suivante, c'est par rapport aux mauvaises pratiques d'aujourd'hui. On parle beaucoup de greenwashing, d'infobésité, etc. Est-ce qu'il y a des facteurs principaux qui ont fait que la communication s'est emballé au niveau de ces mauvaises pratiques?
Il n'y a pas eu vraiment d'époque dorée de la communication, donc une sorte d'époque mythique où la communication des organisations, des entreprises était, sans défaut. Et puis après, il y aurait eu une dégénérescence jusqu'à arriver aujourd'hui. En fait, chaque époque que j'ai rapidement citée a vu ses critiques des pratiques de la communication. La critique de forme de propagande ou de manipulation. Donc, si vous me permettez, on peut remonter jusqu'à la Grèce ancienne. Donc, Platon qui critiquait les sophistes, donc le philosophe Platon qui disait que ces rhétoriciens qui se mettaient à disposition dans les polices, dans les villes grecques, étaient critiquables parce qu'ils ne respectaient pas les principes de la vérité et ils argumentaient pro et contre le même sujet. Voilà, donc il y avait déjà des critiques à cette époque-là. On peut trouver des antécédents, des phénomènes contemporains, les fake news, l'infox, déjà au long de l'histoire. Au début du XXe siècle, par exemple, il y a les critiques adressées aux premiers consultants antécédents des relations publiques, comme je disais, la publicity, comme on l'appelait à l'époque. Donc, par exemple, Ivy Lee, qui était un de ces premiers qui sont devenus des consultants autonomes pour le compte des grandes entreprises. Et donc, ils étaient déjà critiqués à l'époque pour certains de leurs pratiques, de leurs choix. Je citerai aussi les critiques du philosophe allemand Jürgen Habermas par rapport aux relations publiques en général, qu'il considérait grosso modo comme une déformation de l'espace public et de la discussion démocratique, parce que c'est une forme de communication stratégique qui met en évidence très fortement certains intérêts par rapport à d'autres parties de la société. Donc, il était très critique par rapport à ces pratiques. L'évolution technologique, évidemment, rend plus facile certaines pratiques, les rend plus rapides, plus visibles, plus efficaces, peut-être parfois. C'est l'exemple de la rumeur, donc la production des fausses informations qui parfois sont involontaires et parfois sont volontaires, sont planifiées, par exemple. On l'a vu, selon certains auteurs, on a vu des polémiques, des accusations pour déstabiliser les démocraties au moment des élections. Autre phénomène contemporain assez troublant, c'est ce qu'on a appelé la stratégie du doute, ou la création d'ignorance à propos de phénomènes comme les effets du tabac sur la santé, ou alors plus tard, la réalité et les effets des changements climatiques, pour retarder donc la prise de conscience et l'action contre le changement climatique, donc la création du doute et autour des résultats scientifiques. Donc des stratégies parfois très sophistiquées, jusqu'à arriver à ce que vous citez, donc le greenwashing, aussi le social washing, c'est-à-dire le fait de se donner une bonne image sur le plan des pratiques concernant l'environnement ou alors les rapports sociaux, donc la mise en scène d'une bonne image. Alors, je ne veux pas dire que l'histoire ne change pas, qu'il n'y a pas de révolution ou de changements radicaux, mais en tout cas, c'est de nouvelles formes de réalités anciennes. Donc, la communication a toujours été malheureusement le lieu de la recherche de la vérité d'un côté, mais aussi le lieu de la ruse, de la stratégie trompeuse, de la stratégie pour manipuler, pour tromper l'adversaire en plan militaire, mais pas seulement. Donc, voilà, c'est toujours un monde mélangé où on trouve des pratiques différentes. Aujourd'hui, on parle de fake news, voilà, de misinformation, de désordre informationnel. On parle de greenwashing parce que, notamment concernant le greenwashing, pourquoi on en parle beaucoup? Parce qu'effectivement, l'environnement, la protection des conditions d'habitabilité de la planète est devenu un enjeu crucial et donc forcément, ben, ça devient aussi malheureusement l'occasion de cette tromperie, de ces stratégies un peu de ruse, de mise en scène qui ne respectent pas toujours la vérité, d'où le phénomène de greenwashing qui a été appelé comme ça, qui existe depuis quelques dizaines d'années, mais qui malheureusement reste d'actualité d'une façon ou d'une autre.
Ces derniers temps, peut-être ces dernières années, on voit que les entreprises s'emparent de plus en plus de la notion de responsabilité et d'engagement, des politiques RSE, des raisons d'être et autres. Et du coup, on se demande quelles ont été les influences pour ce qu'on considère être un tournant responsable de la communication, mais finalement, c'est là depuis toujours, d'après ce que tu nous dis.
Oui, alors, il y a effectivement des évolutions. Hein. Donc, de nouveau, je ne veux pas donner l'impression que l'histoire est un long fleuve tranquille où rien ne change. Donc, depuis toujours, il y a, dans les différentes conditions sociales, technologiques, historiques, etc., une recherche de la parole vraie, de la parole solidaire vraie d'un côté, dans toutes les sphères, en opposition justement aux pratiques de ruse, de déception, etc. Mais si on arrive au début du XXe siècle, on peut citer la déclaration des principes diffusée par Ivy Lee, que j'ai déjà cité, donc un des premiers consultants, disons, indépendants dans le domaine de ce qui vont devenir après les relations publiques. Donc, c'est ce personnage historique bien connu, à un certain moment, diffuse cette déclaration en disant « ma pratique de communication n'est pas une pratique contraire à l'éthique, c'est une pratique qui est dans l'intérêt du peuple américain, dans l'intérêt du public, etc. » Donc, à ce moment-là, on est, je pense, autour de 1904 ou 1906, il y a déjà cet effort. Et puis, l'histoire continue. Par exemple, le Code d'Athènes, qui est promulgué en 1965 par impulsion du français Lucien de Matra, qui exprime un peu cette tradition humaniste des relations publiques après la Deuxième Guerre mondiale, cette idée de construire une forme de communication qui permet aux entreprises de prospérer tout en valorisant l'humain, donc en mettant au centre les droits de l'homme, les droits de l'humain qui avaient été promulgués justement après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a d'autres auteurs, ça c'est vraiment des exemples. Donc on a eu la production des codes de la part des associations professionnelles. Aujourd'hui, il y a par exemple tous les codes au niveau national et puis le code de la Global Alliance, qui est la grande association au niveau mondial des professionnels dans le domaine de la communication. Là, je parle surtout des relations publiques, évidemment, on pourrait parler aussi de l'évolution de la publicité. Donc, la recherche de professionnalisme et d'éthique est une constante, un peu aussi pour lutter contre la mauvaise image que parfois ces métiers de la communication, de la publicité, des relations publiques ont auprès des publics. Donc, cette image un peu de propagandiste ou des professionnels, des praticiens de la manipulation. Donc, un peu par opposition à ça, il y a cette recherche à travers les codes, à travers des formations, etc., d'une éthique. Et l'expression communication responsable qui s'est un peu affirmée en France dans les dernières années, je pense par exemple au guide de la communication responsable de l'agence gouvernementale ADEME, est un peu une nouvelle une nouvelle occurrence, on pourrait dire, de cette longue histoire dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc effectivement, il y a du nouveau, hein, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de nouveau, et c'est important que les professionnels fassent cet effort. Je pense qu'après la société, disons, le pouvoir politique législatif a aussi quelque chose à faire, évidemment, pour normer, pour mettre des normes. Les choses doivent aller ensemble. Donc, l'effort des professionnels pour s'autoréguler d'un côté et l'effort de la société pour réguler ces métiers, ces professions.
Tu penses qu'on en est où, en fait, avec toutes ces évolutions, ces changements, vu ce qui est en train de se passer dans le monde, où on assiste quand même à un tournant vers une communication, ou du moins une volonté d'une communication plus responsable? Concrètement, est-ce qu'on tend quand même vers du mieux? Et sinon, qu'est-ce qu'il y aurait à faire de la part, justement, des acteurs type les communicants, les communicantes, mais aussi le gouvernement et la législation?
Alors, moi, je pense qu'il y a effectivement des forces qui agissent pour améliorer, pour rendre plus compétents aussi sur le plan éthique les communicateurs. Donc c'est important qu'il y ait des codes, c'est important qu'il y ait des formations, parce que parfois les codes ne sont pas connus et pas utilisés par les professionnels. Donc que les professionnels se forment à travers, par exemple, des formations données par des institutions comme l'ADEME ou alors les différentes associations professionnelles. Il y a ce guide, il y a d'autres documents qui peuvent être utilisés. C'est un effort qui doit continuer. Comme je disais, voilà, il y a d'un côté cet effort d'autorégulation de la profession, des professions de la communication, qui fait partie de la professionnalisation de la communication. C'est-à-dire, les métiers de la communication peuvent améliorer leur nature des professions, se rendre vraiment des professions d'une façon complète, justement en développant cet aspect éthique. Cet aspect de responsabilité, de prise en compte de leurs responsabilités de façon formelle, de façon vraiment approfondie. Et de l'autre côté, je pense que devant les enjeux de la, comme je disais, de l'anthropocène en général et de notre société, il y a aussi un besoin de législation, de normes pour mettre des balises, pour orienter aussi l'activité économique et l'activité des professionnels. Donc voilà, là, je n'entre pas dans les détails, mais en tout cas, je pense que les deux choses vont ensemble. On ne peut pas seulement laisser les métiers s'autoréguler seulement. Il faut aussi un encadrement légal, il faut une orientation. Personnellement, je trouve par exemple qu'on pourrait intervenir dans le domaine de la publicité pour limiter les publicités des produits plus polluants, des produits qui émettent plus de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un exemple où la législation, à mon avis, devrait intervenir. Ça ne signifie pas abolir la publicité, ça signifie l'orienter fortement dans un sens nécessaire pour justement défendre les conditions d'habitabilité de la planète. Donc je suis pour une action commune entre l'autorégulation et l'action législative qui est donc démocratique, donc une action qui est faite via les institutions démocratiques de nos sociétés.
Si on fait un peu un état des lieux d'où on en est aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de diplômés qui prennent la parole sur le sujet. On a par exemple AgroParisTech ou autre. On a aussi de nouveaux besoins qu'on voit sur le marché du travail. Les jeunes diplômés, nouveaux talents qui ont un besoin d'engagement des entreprises et aussi du côté des consommateurs et consommatrices, elles ont aussi besoin que les entreprises s'engagent comme elles et sur des actions plus responsables et plus engagées. Et les consommateurs ont aussi besoin de transparence. Donc, est-ce que tu considères qu'il y a quand même prise de position des entreprises dans leurs engagements et du coup leur communication?
Alors, concernant les jeunes, en tout cas les jeunes qui entrent dans le monde professionnel, je suis très content qu'il y ait effectivement cette tendance à l'engagement, à prendre en considération ces valeurs. J'ai l'impression que malheureusement pour l'instant ce n'est pas généralisé, donc ça concerne une partie des personnes qui entrent sur le marché du travail. Il y a des recherches de sociologie, etc., qu'on peut consulter pour voir que en fait, la jeunesse est quand même variée dans un pays comme la France. Donc il y a différentes tendances, mais il y a cette tendance qui existe aussi et qui est très encourageante et très intéressante, qui va questionner, entre guillemets, de l'intérieur les organisations, le monde économique et puis en général la société. Donc ça, c'est très bien. Concernant ce que les entreprises font, Alors, ben, comme je disais au tout début, c'est une situation mélangée, c'est-à-dire que évidemment, il y a cette centralité aujourd'hui de la responsabilisation sur le plan environnemental, par exemple, donc la nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de diminuer la pollution, de recycler, de diminuer les flux d'énergie et de matière, etc. Donc ça, c'est une exigence générale. Et puis, devant cette exigence, devant les porte-paroles de cette exigence, donc la partie de la population qui est désormais très sensible à ces sujets, les gens qui vont parfois acheter sur la base de ces critères, les gens qui questionnent les associations, les mouvements, etc. Devant tout ça, il y a beaucoup d'entreprises, il me semble, même si je ne suis pas un expert total sur le sujet, mais en tout cas qui vraiment se mettent en mouvement, se mettent en transition et qui commencent à intégrer donc des objectifs de cet ordre, donc d'ordre par exemple environnemental, en s'inspirant par exemple des ODD, donc des objectifs de développement durable des Nations Unies et de toute une série d'autres documents et outils qui existent, des certaines normes ISO, etc., qui existent. Donc il y a ce mouvement existe. Quelqu'un pourrait s'interroger, est-ce que c'est un mouvement suffisant? Est-ce que ce que les entreprises font est suffisant ou pas par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, que nous lisons dans les rapports, par exemple, du GIEC sur l'état du climat ou de l'IPBC sur l'état de la biodiversité, etc. Donc, le mouvement existe. Après, on peut s'interroger sur sa vitesse et sur sa profondité. Et malheureusement, il y a le phénomène, effectivement, de greenwashing, donc des cas où l'affichage est plus important que la réalité. Et donc, il y a des effets un peu de ruse, des stratagèmes, plutôt que des stratégies, pour reprendre un titre d'un article de quelques collègues, donc, où on affiche une image justement pour se rendre acceptable sur le plan social, pour se rendre, pour se justifier sans que l'action derrière soit vraiment importante. Alors, il faut effectivement lutter contre le greenwashing. Les jurys de déontologie ou d'éthique publicitaire des différents pays peuvent être importants. La législation a un rôle à jouer. Et évidemment, la pression des consommateurs est importante, surtout à notre époque, à l'époque des réseaux sociaux numériques, de la possibilité de se mobiliser rapidement, de faire circuler la critique rapidement. Donc, c'est aussi des formes de pression pour chercher à orienter le monde économique de façon de plus en plus forte vers une réelle transition, vers une réelle diminution, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre.
Voilà pour ce premier épisode. Un épisode qui retrace l'histoire des entreprises et de leur communication, qui interroge leur raison d'être à l'origine et pose les défis pour l'entreprise de demain. On vous donne rendez-vous dans le deuxième épisode de cette série, où l'on rentrera dans le cœur de l'entreprise, son épanouissement et celui de son écosystème. En effet, on explorera l'état actuel du marché du travail, du monde de l'entreprise et même du management. Là encore, un sacré programme pour poser les bases de cette série sur l'entreprise de demain. À très vite. Merci beaucoup.